parfois, dire ce n'est pas faire, même avec la meilleure volonté ou la meilleure des velléités, même en épuisant les ressorts de l'anaphore, de l'analogie, de la répétition, des métaphores, de l'hypotypose, même en essayant la polyphonie, en voulant brouiller la voix narrative par la voix du personnage principal, et réciproquement. Même en tentant de donner une circularité au récit, même en avançant tantôt avec des euphémismes, tantôt avec des images, tantôt avec un coup de gueule. Même en choisissant de porter un discours de jeune, postcolonial, à entendre ici d'un point de vue seulement chronologique, n'ayant pas connu la dernière des guerres coloniales françaises, ayant tout lu à son sujet, et le revendiquant, désabusé, pessimiste, impuissant, lâche, parfois indifférent, parfois révolté, parfois solidaire, mais intérieurement, au sujet de son époque, de ses aînés, de sa société. Même en dotant son écrit d'un dispositif paratextuel censé alterner les genres, selon le chapitrage, commentaire, roman, roman, commentaire, narration au jeu et narration au il, en mettant des titres qui annoncent du mal existentiel, de l'épique, du colonial, de la fatalité, de la liberté, de l'aventure. Parfois, le dire est plus difficile à faire qu'à dire, surtout lorsqu'on escompte des effets de hantise. Dire qu'une réalité hante, c'est déjà difficile à montrer de manière crédible. Mettre en scène la hantise, surtout si on veut que cela soit effectif, que cela ait des résultats sur le lecteur, bref, utiliser l'argument que du réel se manifeste dans le présent parce que c'est du passé qui n'est pas passé, que des fantômes nous hantent parce que la réalité n'a pas été assumée, c'est une chose. Se contenter de le dire ou de le répéter n'est pas la même chose que de montrer, surtout lorsque montrer veut dire transformer le dire en manifestation de la hantise elle-même, avec donc un effet en retour sur le lecteur. Plus difficile encore s'avère la gageure de placer dans la langue seule cette revenance. Cela revient alors à proposer au lecteur de croire le narrateur sur parole, sur son discours essentiellement. Ce qui est dit a donc la valeur du poids de ses mots, des procédés syntaxiques, des choix de style, des références intersexuelles, de son vocabulaire, fût-il puisé directement dans le dictionnaire des mots de la langue de la guerre d'Algérie, des emprunts, des noms propres des personnes, des lieux et de leur grimage ou non, des jeux de mots, des tournures ironiques ou de propositions humoristiques. On l'aura compris, l'art français de la guerre, de génie, qui a pour principal leitmotiv la fascination pour l'efficacité du dessin, qui montre, et une déploration de la vanité des mots, repose soit sur une assise antithétique, où l'auteur ferait autre chose que ce qu'il dit, qu'il fait, et y parvient, soit sur une assise bancale, grinçante, pour reprendre le mot de la sociocritique. Dans l'art français de la guerre, ce qui grince, c'est cette volonté affichée par le discours de dire la hantise, en dénonçant et en déplorant la vacuité des mots et leur inefficience, en clamant la supériorité des images à donner à voir et à comprendre par le cinéma ou la supériorité du dessin plus apte à montrer. Même si à plusieurs reprises cette valorisation est contredite, je reviendrai là-dessus à la fin de ma présentation. Le livre de génie est de ces livres que nous parcourons avec la meilleure volonté du monde, et auxquels, malgré ou justement à cause de leur longueur, au singulier ou au pluriel, on accorde le bénéfice de la démonstration tardive. On attend alors qu'ils remplissent en quelque sorte leur pacte doctorial et qu'après avoir annoncé ce qu'ils font, qu'ils le fassent, qu'après avoir parlé de hantise, répété les termes hantise et fantôme, les apparitions prennent enfin la place des déclarations d'intention. Que les effets d'annonce d'une certaine façon soient remplacés par une annonciation et que les effets succèdent à leur annonce, prennent la place des causes énoncées, que la manifestation remplace le seul discours sur la hantise. Parfois l'incantation ne fait pas venir les fantômes, alors soit l'appel de tous ses vœux pour une apparition qui devrait arriver n'est pas assez sincère, ou manque de conviction, soit que les fantômes ne veulent pas revenir, soit qu'ils n'existent pas. Au pire, c'est mon hypothèse, hein, qu'ici, dans ce roman, ils sont là, mais pas là où le narrateur veut qu'on les voit se manifester. Alors, comme élément justement de la revenance ou de la hantise, la perte de l'Empire, la fascination pour l'armée de métier, l'amnistie et l'impunité des crimes, le déni du passé, alors avec, on peut mettre dedans justement le rapport à l'histoire et à la mémoire, et le nom des gens qu'on ne nomme pas, et l'impuissance de l'individu. Lorsque Génie nous offre donc cette langue, selon lui hantée, ou avance en martelant à de nombreuses reprises tout au long de son texte l'assertion selon laquelle la société française est hantée à travers sa langue, la répétition par le narrateur qui affirme que cette hantise est advenue et qu'elle se règne est loin de suffire. Il n'est pas nécessaire en effet que le narrateur insiste sur la langue, car c'est la sienne, et en voulant la décrire, il se répète indéfiniment. Alors, je vais vous montrer un exemple qui est un peu long, mais qui montre comment le roman fonctionne. L'extrait est long et il montre en fait, d'une part, ce qui est exceptionnel en France, l'exception française donc, qui a de remarquable, justement, selon le narrateur, un présent invivable, pris justement par quelque chose qui est l'ordre de la violence, une violence qui est prête en fait à exploser, et en même temps une tension qui se passe entre ici et là-bas, là-bas entendre l'ex-colonie, mais en fait la colonie puisque c'est le passé, et le hier et l'aujourd'hui, c'est-à-dire le passé et le présent. Alors je cite, dans le malaise général, dans la tension générale, dans la violence générale, un fantôme vient errer que l'on ne peut définir. Toujours présent, jamais bien loin, il a cette grande utilité de laisser encore croire que l'on peut tout expliquer. La race en France a un contenu, mais pas de définition. On ne sait rien en dire, mais cela se voit. Tout le monde le sait. La race est une identité effective qui déclenche des actes réels, mais on ne sait pas quel nom leur donner à ceux dont la présence expliquerait tout. Aucun des noms qu'on leur donne ne convient. Et on sait aussitôt pour chacun que ces noms, qui les a dit, et ce que veulent ceux qui les leur donnent. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Puisque le livre se partage entre commentaires, donc une voix narrative qui exprime son présent, et ce personnage justement principal qui rencontre militaire de carrière, qui est en fait militaire depuis qu'il a pris le maquis alors qu'il est à la fin de son adolescence, pour ensuite devenir vraiment militaire de carrière en allant en Indochine et ensuite en guerre d'Algérie. Donc le personnage principal rencontre justement cet individu qui s'est dessiné. Et en échange de cours de dessin, le narrateur va proposer justement d'écrire les mémoires, de refaire une écriture des mémoires de ce militaire de carrière qui est montré en fait comme quelqu'un qui a fait la guerre pendant 20 ans, donc de 42 à 62. Comme je voulais vous parler justement de la structure rapidement, la structure alterne donc un présent dans lequel un narrateur est en train de dire sa mal-vie, mais en même temps l'ambiance française du moment, fin des années 90, peut-être jusqu'au début des années 2000, et sa rencontre avec ce militaire de carrière. Il circule dans la ville et il se déplace dans les moments de commentaires pour aller chez justement Salagnon, ce personnage, pour prendre des cours de dessin. Et en fait, dans ces déambulations, dans la ville française, il a affaire à la ville la nuit notamment, ou la ville la journée. La banlieue, il ne parle jamais de banlieue, il n'y a pas le mot banlieue, peut-être qu'il y est, il y a 700 pages, 790 pages le roman, mais le mot banlieue est absent. Et il rencontre des gens qu'il n'arrive pas à nommer, qu'il décrit. Ils ont un voile, ils parlent bizarrement, ils parlent français, mais ils ne parlent pas le français. Le français que lui comprend et qu'il utilise d'habitude. Il ne les nomme pas. Je continue dans ma citation. La race n'existe pas, mais elle a une identité effective. Dans la société sans classe, dans la société moléculaire livrée à l'agitation, tous contre tous, la race est l'idée visible qui permet le contrôle, la ressemblance confondue avec l'identité, permet le maintien de l'ordre. Ici comme là-bas. Là-bas, nous mîmes au point le contrôle parfait. Je peux bien dire « nous », car il s'agit du génie français. Ailleurs dans le monde, en fait, on développait des machines abstraites de von Neumann pour construire des machines. La société IBM inventait la pensée effective par un ensemble de fiches. La société IBM, promise un immense avenir, produisait des fiches à trous et simulait des opérations logiques en manipulant ces fiches à trouer à l'aide de grandes aiguilles, de longues aiguilles métalliques et pointues que l'on appelait pour rire aiguilles à tricoter. Pendant ce temps, dans la ville d'Alger, nous appliquions cette pensée à l'homme. Il faut rendre ici hommage au génie français. La pensée collective de ce peuple qui est le mien, c'est tout à la fois élaborer les systèmes les plus abstraits, les plus complets, et les appliquer à l'homme. Le génie français sut prendre le contrôle d'une ville orientale en appliquant de la manière la plus concrète les principes de la théorie de l'information. Ailleurs, on en fit des machines à calculer. Là-bas, on l'appliqua à l'homme. La citation est longue, je continue. Les aiguilles à tricoter que l'on utilisait par ailleurs pour pêcher des fiches, on les utilisait dans la ville d'Alger pour pêcher des hommes. Grâce à un trou dans un homme, avec la longue aiguille, on pêchait un autre homme. On appliqua l'aiguille à tricoter à l'homme, alors que la société IBM ne l'appliquait qu'au carton. On plantait les aiguilles dans les hommes, on les perçait de trous, on fouillait de ces trous, dans ces trous, et à travers un homme, on pêchait d'autres hommes. À partir des trous percés dans une fiche, à l'aide de longues aiguilles, on attrapait d'autres fiches. Ce fut un beau succès. Tout ce qui bougeait fut arrêté. Tout arrêta de bouger. Les fiches, une fois utilisées, ne pouvaient plus servir. Les fiches en cet état ne pouvaient être utilisées. On les jetait dans la mer, dans une fosse que l'on recouvrait. Pour un bon nombre, on ne sait pas. Les gens disparurent comme dans une corbeille à papier. L'ennemi est comme un poisson dans l'eau? Eh bien, qu'on vide l'eau. Et pour faire bonne mesure, hérissons le sol de pointe que l'on électrifiera. Les poissons périrent, la bataille fut gagnée, le champ de ruines nous resta acquis. Nous avions gagné par une exploitation méthodique de la théorie de l'information et tout le reste fut perdu. Nous restâmes les maîtres d'une ville dévastée, vidée d'hommes à qui parler, hantée de fantômes électrocutés, une ville où ne restait plus que la haine, la douleur atroce et la peur générale. La solution que nous avions trouvée montrait cet aspect très reconnaissable du génie français. Les généraux Salans et Massu appliquèrent à la lettre les principes géniaux de la bêtise de Bouvard et Pécuchet. Dresser des listes, appliquer la raison en tout, provoquer des désastres. Nous allions avoir du mal à vivre ensemble. Oh, ça recommence, ça recommence. Il l'a dit, je le lui ai entendu dire. Il l'a dit par les mêmes mots, dans les mêmes termes, sur le même ton. Oh, ça recommence. La pourriture coloniale nous infecte et nous ronge. Elle revient à la surface, depuis toujours. Elle nous suit par en dessous. Elle circule sans qu'on la voie, comme les égouts suivent le tracé des rues, toujours cachés, toujours présents. Et lors des grandes chaleurs, on se demande bien d'où vient cette puanteur. Fin de citation. Alors, oui, le livre fonctionne de cette façon, donc on a cette avancée progressive. C'est un passage que j'ai pris quand même à la 231e page. Ce qui est intéressant à montrer ici, c'est que, avant d'aller justement sur le premier élément qui est la perte de l'Empire, relevez juste dans cette citation qui est assez longue l'élément qui finalement me fait penser justement à la perte de l'Empire, à la question du deuil, notamment développée par Pierre Nora lorsqu'il expliquait pourquoi est-ce que dans les lieux de mémoire il n'y avait pas, ou très peu, ou pas du tout en fait, il y a juste un article qui parle de la colonie ou des colonies. Et donc dans la citation que j'ai posée tout à l'heure, on a justement « Nous avions gagné par une exploitation méthodique de la théorie de l'information et tout le reste fut perdu. » Tout le reste. C'est-à-dire que le reste aurait pu être gardé si on n'avait pas fait justement la bataille d'Alger, et notamment la torture systématique. Donc tout le reste fut perdu, là je n'ai pas le temps de développer, mais on pourrait aller justement sur la question du deuil et de la perte. Je vais y revenir. Alors le livre, ce qui est intéressant, c'est qu'il est habillé. Il a un maillage, en fait, des discours qui sont assez visibles, en fait. Donc les discours qui le composent laissent vite transparaître, en fait, les sources, plutôt la fidélité des lectures qui sont reprises. Par exemple, on peut retrouver assez facilement dans la systématisation, la description de la torture, qui est tout à fait détaillé lorsqu'il s'agit de ce qui s'appelle roman, c'est-à-dire pour raconter comment la torture est pratiquée, la manière dont Raphaël Branche, donc l'historienne, va raconter comment, effectivement, la torture va être pratiquée par l'armée pendant la guerre d'Algérie. Notamment, justement, pendant la bataille d'Alger, la question de la légalité, la question du militaire qui devient du parachutiste qui devient policier, le systématisme de la torture, les moyens, les crimes, le profil des tortionnaires, le détail des pratiques, la collectivisation des responsabilités, le travail d'équipe, le soudage de cette équipe, tout ça va vraiment être tout à fait visible et reproduit tel que les documents le montrent. Deuxièmement, il y a un élément important, le narrateur, c'est un jeune, je ne sais pas, il doit avoir la trentaine peut-être, je ne sais pas si on est jeune à 30 ans ou à 35 ans, ça dépend où, effectivement. À un moment donné, il va s'interroger sur la France des années 90 et notamment des années 2000, puisqu'on sent que les émeutes sont là, les émeutes de banlieue, le mot, je vous dis, n'est pas véritablement précisé de cette façon. Et donc, il y a une ambiance, justement, pas d'état de siège, mais pas d'état d'exception, mais d'état d'urgence. Et effectivement, il va montrer que dans ses déambulations, il va assister à à ce qu'on appelle en France le délit de faciès, c'est-à-dire le fait d'avoir une tête d'arabe et de se faire arrêter. Et si on est blond et on n'a pas une tête d'arabe, on ne se fait pas arrêter. Donc, il va montrer en fait que lui, puisqu'il a un physique qui passe, il n'est jamais arrêté. Et donc, il fait partie effectivement d'une identité qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas contrôlable. Et il va parler à partir de son identité de blanc, entre guillemets. Il va utiliser en fait ce que fait Pierre Thévanian dans La mécanique raciste. Il y a tout un chapitre à la fin de ce livre-là où Pierre Thévanian se met à la place, regarde qu'est-ce qu'il a eu lui comme obstacle dans sa vie en tant que Français, entre guillemets, de souche. Et en fait, il fait la liste et quand il regarde tout son itinéraire, en fait, pour devenir un adulte et ensuite un professeur, notamment au lycée, il n'a pas rencontré de difficultés particulières, notamment aussi en raison de ses origines sociales aussi. Troisième élément intéressant justement dans ce livre, où on sent les lectures qui sont juste là, elles sont juste à la surface, on a toutes sortes de lieux communs qui circulent justement sur les pieds noirs, sur les appelés. Donc il faut que toute la liste, puisqu'il est question de guerre d'Algérie, et je souligne que la guerre d'Algérie est un chapitre plus petit dans le roman par rapport à celui qui est accordé à l'Indochine, mais concernant justement la guerre d'Algérie, elle est là depuis le début. Depuis le début, elle est dans les commentaires. Donc, il y a énormément d'éléments sur, par exemple, la manière dont le Front National fonctionne. On n'appelle pas le Front National, bien sûr. La manière dont, par exemple, la vision de Camus sur cette Algérie coloniale, avant d'être une Algérie en guerre. Il y a aussi toute une reprise, j'espère que j'aurai le temps de vous montrer l'extrait, une reprise en fait de l'analyse qu'a fait Serge Danet de Capo, le film de Pontecorvo, et en reprenant justement le mépris du critique cinéaste vis-à-vis justement d'un procédé esthétique dont s'est rendu coupable le réalisateur, va condamner justement la bataille d'Alger, le film lui-même, comme et le classer comme un film abject. Si jamais on revient justement, si jamais je reviens à la question justement de ce qui hante ce livre-là, la perte de l'Empire, je vais donner une autre citation, mais avant, parlons un petit peu du vocabulaire. C'est un vocabulaire qui revient très souvent. Le terme là-bas, le terme état d'urgence, pacification, 10 ans de paix, contrôle d'identité, colonne blindée, pacification bien sûr, etc. Tous ces termes-là sont là. Ils sont présents de cette manière en peu de quantité dans les commentaires. Tout l'arsenal effectivement du langage colonial est réutilisé pour donner le contexte lorsqu'il s'agit de la partie roman, c'est-à-dire la partie racontée par un narrateur, mais qui regarde la manière dont a évolué justement Salagnan, donc le militaire de carrière, en tant que parachutiste pendant justement son passage en Algérie. Alors, une citation intéressante vers la fin de l'ouvrage, même si tout au long du livre, on a l'impression justement qu'il y a une déploration d'une perte. Je cite « Écrire n'est pas mon fort ». Alors c'est toujours aussi le leitmotiv de l'écriture. Je ne fais qu'écrire parce que je ne sais qu'écrire. « Écrire n'est pas mon fort, mais poussé par la nécessité et le manque de moyens, je m'y efforce alors que je voudrais peindre, montrer du doigt en silence et que cela suffise. Cela ne suffit pas, je veux continuer d'entendre parler, j'appréhende que ma langue ne s'éteigne, je veux l'entendre, je veux reconstituer ma langue abîmée, je veux la retrouver tout entière avec tous ceux qui vivent d'elle et la font vivre, car elle est le seul pays. » Nous perdons des mots à mesure de l'effilochement de l'Empire, et cela revient à perdre une part des terres où nous habitions. Cela revient à réduire l'étendue du nous. Il est des morceaux pourris en notre langue, une part de malaise, de mots immobilisés, du sang coagulé. La langue pourrie comme la pomme, là où elle a reçu un choc. Cela date du temps où le français, langue de l'Empire, langue de la Méditerranée, langue des villes grouillantes, des déserts et des jungles, du temps où le français, d'un bout à l'autre du monde, était la langue de l'interrogatoire. Ce qui est intéressant sur toute la partie concernant, par exemple, la torture en Indochine, c'est un Allemand qui torture, mais il torture en français. Selon Selwa Lusbulbina, la question justement de la perte de la grandeur de la France et de la mélancolie qui lui serait reliée, en fait, est du côté justement de la France. La disparition des colonies est une défaite politique. Alors là, je la cite, la disparition des colonies est une défaite politique de taille qui met à mal les politiques de grandeur jusqu'alors suivies. Tout se passe comme si, finalement, l'État français colonial puisait sa volonté de puissance aux racines de la mélancolie. Tocqueville considérait déjà, à l'époque de l'abolition de l'esclavage, d'une part et de la conquête d'Algérie d'autre part, que la colonisation constituait en définitive une restauration de la grandeur de la France, perdue du fait de la Révolution. La perte, en effet, comme Freud a pu le montrer dans la mélancolie, ne désigne pas un objet, mais un investissement, comme un déterminisme négatif. La grandeur de la France, comme peut-être toutes les grandeurs, est imaginaire. Tout se passe comme si, également, l'État français postcolonial s'élevait sur un champ de ruines tel qu'il faille réhabiliter d'abord la République, qui ignore les différences et les communautés, puis la laïcité qui réprouve le voile, et ensuite l'identité nationale qui cache la diversité culturelle pour exister pleinement. Et là, on a ce discours-là aussi qui est là, qui est le fait ici d'un individu, mais qui est redonné en fait à écouter. À partir justement de cette manière de voir à quoi correspond justement la perte et le sentiment de perte et le sentiment de deuil finalement colonial, il faudrait relire alors certains classiques sur la colonisation pour mesurer ce qu'a impliqué son investissement. L'investissement, c'est pour ça que ça touche les individus, même peut-être aujourd'hui, son investissement qui est autant matériel, militaire, financier, qu'idéologique et symbolique, psychique. Donc cet investissement-là, il est aussi à chercher dans une certaine cécité toute républicaine, en fait, qu'on a retrouvée, en fait, chez les anticolonistes exemplaires comme Pierre Mendès France, lorsque, par exemple, Seloualus Boulbina va relire, justement, certaines positions, justement, de politiques français sur la colonie. Mirage, ça s'appelle, elle a un texte qui s'appelle « La colonie, mirage et réalité historique ». Si je reviens, justement, au deuxième élément qui hante ce roman, c'est la fascination pour l'armée de métier. Juste trois mots, donc sur la fascination pour l'armée de métier, effectivement, le fait que le narrateur suive et trouve à chaque fois, jusqu'à la fin en fait, à rééquilibrer finalement le pourquoi de la torture. La torture en fait décrite de façon extrêmement crue, réaliste, et qui en même temps ne va pas entacher finalement l'un des responsables de cette pratique de la torture qui est le militaire de carrière. Et en fait, dans ce livre-là, régulièrement, le narrateur, notamment dans les commentaires, va tenter de rééquilibrer, par exemple, le rééquilibrage en fait de la guerre, par exemple, le rééquilibrage de l'application de la torture, par exemple, en disant oui, on torture pour aller empêcher que des bombes explosent et fassent d'autres innocents, etc. Ce rééquilibrage vient jusqu'au bout en fait démontrer la fascination pour le métier de militaire. Et juste un petit lien avec disons le cinéma, puisqu'il est féru, il estime que le cinéma est plus important effectivement, un peu plus finalement que l'écriture. Effectivement, les films sur la guerre d'Algérie en France qui ont eu le plus de succès, ce sont des films sur les militaires directement, et non pas d'autres films. Voilà, je vais m'arrêter là.